Qu'est-ce qui fait le génie d'un DJ? L'émotion que suscite la mort à 28 ans du Suédois Avicii mérite d'interroger cet art si singulier. Je pense à Superstar, ce roman d'Anne Scott que j'ai lu quand j'avais la moitié de mon âge et où l'on trouve sur la musique électronique de saisissantes pages, cette scène notamment de transe, de partage et de pulsion de vie. Quand elle écrit Anne Scott, sous mes pieds qui ne touchaient plus le sol, je pouvais voir toute la vie, un monde de racines et de petites bêtes qui évoluaient calmement, sans crainte ni urgence. J'étais seul dans ce décor, mais je savais que si je rouvrais les yeux, ils étaient tous là. Et ils ressentaient tous la même chose que moi, chacun dans son propre délire, mais tous sur la même longueur d'onde. Tous conscients d'une même et unique chose, le rythme. Tout cela pour se laisser emporter loin de tout ce qui ne tournait pas rond, loin de tout ce qui foirait toujours, avant même qu'on essaye. Loin du peu qu'on avait et qui ne ressemblait en rien à ce qu'on aurait voulu avoir. Tout cela pour se lâcher sur cette musique qui répétait inlassablement « ici et maintenant ». Le présent, l'ici et le maintenant. La vie dans ce qu'elle a de plus éclatant. Voilà ce qui se joue dans le set d'un DJ quand il est génial. Et vous comprendrez aisément pourquoi l'idée même de sa mort relève du scandale.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. À quoi tient le génie d'un DJ pour mon invité d'aujourd'hui? Lui dont les morceaux cultes ont été repris sur les platines du monde entier et qui, à 60 ans passés, n'a pas fini de nous faire danser. Son autobiographie Paradise sort demain et il y retrace le parcours hors du commun d'un petit français d'origine italienne et Jerry Disco, pionnier de la French Touch. Bonjour Céron.
Bonjour, je suis ébloui du texte que vous avez lu juste avant. C'est exactement la traduction de ce que je pourrais dire, ce que c'est que la vraie disco. L'ambiance, l'atmosphère, c'est pas de la musique pop qu'on fait avec un rythme comme ça pour badaboum, badaboum, ce que certains ont pu dire. Le texte que vous avez lu avant, il est magnifique.
C'est un texte d'Anne Scott et un texte incroyable, je dois le dire. Pour vous, qu'est-ce qui fait le génie d'un DJ, Céron?
C'est de rendre les gens heureux, c'est de créer une atmosphère. Le disco, c'est vraiment créer une atmosphère. C'est pour ça que moi, quand j'ai démarré, j'ai fait des titres de 16 minutes de long, parce qu'il faut du temps pour entrer dans une séduction. C'est un jeu de séduction. Et un bon DJ, c'est les gens qui mettent les gens, qui retournent les gens, qui mettent les gens dans le bonheur, dans le plaisir, dans l'oubli, qui s'abandonnent au son, à la musique, aux odeurs, quand on a chaud, quand on transpire. Il y a toute cette ambiance, c'est
la vie.
C'est la vie.
Et c'est le fait de rendre vivants aussi des morceaux, parce que vous leur devez beaucoup aux DJ. Qu'est-ce que vous et votre musique leur devez? Ils vous ont tellement rejoué.
Alors je peux vous en parler un petit peu, parce que quand ma maison de disque Because m'a dit il y a 4 ans tu devrais prendre les platines, je suis avant tout un musicien, et quand on m'a dit, j'ai dit qu'est-ce à dire, on m'a dit tu devrais prendre les platines pour aller faire des grands festivals que tu ne pourras pas faire en live, mais en platine si tu joues ton répertoire tu devrais essayer de le faire. Ben, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais enfin, je l'ai fait, et que maintenant, je fais beaucoup, pratiquement 3 fois par mois, à travers le monde. J'ai cette chance de pouvoir mettre les gens en osmose, quoi, en plaisir. C'est fabuleux. C'est une expérience. En plus, je peux me permettre d'en parler des deux, puisque j'ai passé ma vie à faire des lives. J'ai passé ma vie sur scène, et maintenant, aux platines. Alors certes, je joue que ma musique hein, pendant 1h30. C'est fantastique de voir les gens qui déjà attendent, parce qu'ils ont un petit peu entendu parler, ils ont la banane. Et ensuite, ils ont la même banane, sauf qu'ils sont en sueur.
Et puis il y a les DJ, Céron, qui vous reprennent aussi sans
cesse. Grâce à eux que j'ai fait ça.
Et qui rendent votre musique présente. Hein.
On m'a souvent dit que j'avais ouvert les portes, mais c'est grâce à eux. Ils m'ont tellement samplé, remixé, ça a évité de faire vieillir mon style,
mais
mon son.
Mais ça a tenu à quoi ça? À quel rythme? À quelle mélodie? À des instrumentations? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a tant repris?
De l'ambiance, je crois que les samples qu'on me prenait, c'était pas des samples de voix, c'était des samples de ma manière de jouer, de ma manière d'écrire les basses, de un environnement, parce qu'en plus qu'un DJ, quand il sample quelque chose, ça lui coûte cher, il partage ses droits.
Oui.
Donc il essaye de le faire tout seul, mais donc s'il sample, c'est que voilà, il prend un bout d'échantillonnage, qui est genre 8, 12, 16 mesures, copie-coller, ils mettent une nouvelle mélodie dessus, puis avec des très bons arrangements, et ça devient un partage de droits.
C'est quoi le son Céron?
Ah.
Il faut bien qu'il y en ait un pour qu'on l'ait tant repris.
C'est déjà mettre, c'est joyeux déjà, c'est happy, c'est festif, c'est rythmique.
Ça fait danser.
Ça fait danser, c'est fait pour.
la nuit,
qui a même été... si j'ai eu la chance d'avoir des fois des grands, de très bons auteurs, mais enfin c'est surtout la musique d'ambiance, moi, que j'aime souvent. À mes débuts, on m'appelait musique pour les ascenseurs. Je disais oui, absolument. Si je fais oublier pendant 27 secondes le fait de monter, c'est très bien, je suis content.
Mais peut-être que musique pour les ascenseurs, ça voulait dire monter métaphoriquement.
Oui, c'était péjoratif dans leurs mots, mais moi je le prenais toujours positivement.
La nuit, ça a été votre théâtre, hein, dès vos débuts dans les années 70, je pense au mythique Studio 54 notamment. Qu'est-ce qui différencie la nuit de ces années-là à celle d'aujourd'hui, à votre avis ?
Ah, oh, alors, beaucoup de choses. Nous, à l'époque, en tant qu'artiste, en tant que créateur, déjà, on avait un leitmotiv, c'était de tout faire pour éviter de ressembler aux autres. Ça, c'est un petit peu changé aujourd'hui, quand même. On est plus dans des formats aujourd'hui. On est beaucoup plus aseptisé aujourd'hui. À l'époque, on pouvait se permettre de se balader. Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré dans les couloirs d'Atlantique Prince, il avait une cape noire et rouge à l'intérieur avec une épée. Il se baladait comme ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on voyait un individu qui se balade dans la rue comme ça, on le met en prison. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses. Et par contre, je trouve que depuis 3, 4, 5 ans, ça y est, ça s'ouvre. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a une créativité mondiale qui est géniale. Il y a des vrais génies qui arrivent là.
Vous savez, c'est vrai que dans cette émission, rien ne se perd. Hein. Tout se transforme, tout se transmet. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va sortir la boule à facettes, là. Les pattes d'œuf, elles sont stupéfiantes parce qu'on n'est pas comme ça dans Boomerang.
Bah déjà, votre studio dans les rouges, là, c'est assez sympathique. Pour ceux qui ne le voient pas, je te sais de l'écrire. On est dans les rouges, une lumière tamisée. Il y a une régie avec deux jolies femmes derrière.
On se calme, c'est vrai.
Donc, allez, musique.
Musique, Supernature. On enlève sa chemise, son pantalon, son Marcel, ses bretelles. On donne de l'amour. Plus d'amour, toujours plus d'amour dans toutes les tonalités, même en si minor, c'est vraiment...
Bravo.
Ce qu'il faut dire, c'est que Love in C minor, c'est quand même un ovni musical en 1976, ça va changer votre vie par un coup du destin absolument incroyable. Alors, il faut nous raconter ce qui s'est passé.
Vous allez me demander la question sur le carton qui s'est échappé d'un...
Dites-moi.
C'était... quand j'ai eu fait la Vinci Minor, c'était pour moi mon dernier album que je voulais faire pour mes futurs petits-enfants. On allait en vente 12, ça n'allait pas marcher. Et évidemment, j'ai rien fait pour que ça marche, puisque la longueur du titre, 16 minutes 30. Les 2 minutes 30 du début, il n'y a pas de musique, c'est trois nanas qui parlent, qu'est-ce qu'on va faire? Et elles expliquent un petit peu, c'était un petit peu de la mise en scène musicale. Et donc évidemment, quand j'ai présenté ça aux 6 grosses maisons de disques qu'il y avait de l'époque, les gens m'ont pris pour un fou, certains m'ont mis dehors, me disant que la batterie était trop en avant, on n'avait jamais fait ça, que la longueur ne pouvait pas passer en radio. J'avais beau leur dire, mais c'est pas fait pour les radios. Ils m'ont dit, alors, mais comment voulez-vous qu'on fasse savoir que ça existe? J'ai dit, il y a un nouveau média qui vont s'appeler les discothèques, parce qu'à l'époque, on appelait les clubs, les nightclubs. Ouais. Moi, j'avais senti le mouvement américain qui arrivait, parce que j'ai rien inventé. La disco, c'est un petit peu un mélange avec une French touch. Je l'ai un peu sophistiqué, mais ça vient de la musique soul,
moins américaine. Passé.
Et alors, donc personne n'en a voulu, je me suis dit, je vais en faire presser quelques-uns. Impossible de le faire en France, donc je suis allé en Angleterre. On m'a dit pas moins de 5000, donc j'en ai fait presser 5000. Les disques sont arrivés en France, j'ai commencé à en mettre avec des copains dans les magasins 3 ici, 5 là, pour essayer d'en vendre directement. Et il y avait un magasin de disques sur les Champs-Élysées qui s'appelait Chandis, qui était très populaire, et là où tous les DJ allaient se ravitailler d'un port étranger. Et je lui en donne 3, je lui en donne 10, ça bouge pas beaucoup, et j'envoie des copains les racheter. Alors évidemment, quand ils venaient les racheter, ils venaient pas... Vous avez le dernier Céron? Ben non, il me demandait, qu'est-ce que vous avez d'original? Je lui dis, le mec, il faisait écouter tout, et sauf qu'il y en avait un qui était caché derrière, avec une pochette un peu scandaleuse à l'époque, car j'avais mis une fave nue sur la pochette pour avoir un peu de... Personne n'avait fait ça avant, pour avoir un peu de lumière, quoi, un minimum. Donc on lui demandait, c'est quoi ce disque? Je peux l'écouter? Il lui mettait au casque, c'est super. Il disait, je peux l'écouter en haut, voir le son que ça a, il mettait en haut. Bref, il achetait, donc on diffusait la musique, il achetait l'album. Une heure après, il y avait quelqu'un qui venait en disant, j'ai écouté tout à l'heure, en passant de votre magasin, un truc de fou, c'est quoi? Donc j'ai créé un petit peu volontairement un buzz. Donc le chandiste se dit, tiens, j'en ai déjà vendu 20, tu m'en livres 300, et à la fin du mois, on fait les comptes. Avec plaisir, on lui en livre 300. Sauf que 48 heures après, il m'appelle et il me dit, je croyais qu'il avait tout vendu, il me dit non, mais j'ai un imbécile de magasinier. Au lieu de renvoyer des Barry White défectueux et invendus, au grossiste à New York, il envoyait les tiens. Donc, rendonne-moi-en 50, puis on fera le point à la fin du mois. Sauf qu'ils sont jamais rentrés. Là, c'est tombé dans les mains d'un grossiste qui a ouvert le carton, qui a vu une pochette à poil, il a voulu écouter. Super, parce que le week-end, il jouait dans un club à New York. Il a commencé à jouer sur le disque à New York. Les gens allaient voir la cabine en demandant ce que c'était. Bref, ils ont tout vendu sur place. Et ma chance, c'est là où le truc se fait, et ma chance, un animateur star comme vous, qui s'appelait... On peut le dire, qui s'appelait Frankie Crocker.
Je suis un petit peu le Frankie Crocker de France Inter ce matin.
Frankie Crocker qui était dans une station qui s'appelait WBLS, qui existe toujours, a commencé à expliquer ça en radio, en disant, on cherche quelqu'un qui a écrit un Love in C Minor, on le cherche partout. Visiblement, ça vient d'Angleterre, puisqu'il y avait marqué Printen in England, son album, et personne ne me connaissait. Donc, il a décidé de faire un cover, c'est-à-dire une copie. Et cette copie a commencé à monter et devenir très très importante.
À partir de quand, Céron?
Je vous fais la version courte, à la fin. Ouais. Aux États-Unis, il y a eu 3 millions d'albums de vendus, donc c'était très important.
Mais à partir de quand est-ce que vous êtes senti reconnu en France? Parce que je sens, en lisant cette autobiographie, que ça a pu être une source de souffrance quand même.
Mais alors, ça va vous étonner. À partir de maintenant, simplement... Quand, par exemple, quand vous recevez 5 Grammy Awards aux États-Unis, que vous venez en France pour faire la promotion d'un disque du moment, et que dans le showbiz, certains vous disent « Alors, Céron, vous faites toujours de la musique ?» Ça fait un trou, quoi, quand même. À partir de maintenant, alors, ça ne veut pas dire que disons que j'ai pas fait d'efforts pour faire de la promo comme j'aurais dû le faire en France. Je le regrette pas, je suis resté 22 ans à Los Angeles, donc j'étais bien là-bas. Rien ne m'attirait en France. J'avais l'impression un petit peu, vous savez, quand vous avez un sentiment de, quand vous êtes gosse, vous n'avez pas bien travaillé une certaine année à l'école, vous êtes adulte, vous repassez devant l'école, ça fait un feeling pas terrible, quoi. Quand je venais en France, c'était un peu ça, c'était pas terrible, quoi.
Je vais vous dire un truc, celle qui est française dans cette émission, mais qui reste toujours sur la touche, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité has-been, ringarde, pas très à la page, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 24 avril? Ça bouge à Bourges, c'est aujourd'hui que s'ouvre la saison des festivals d'été avec le Printemps de Bourges. Particularité de cette 42e édition, la parité. Pour la première fois, un festival français a programmé autant d'artistes féminins que masculins. Et on a envie de dire, enfin, pour s'ambiancer, on pourra donc compter sur les divines, Juliette Armanet, Catherine Ringer, Véronique Sanson, mais aussi Brigitte, IBI, Charlotte Gainsbourg, Holly Seas, Clara Luciani ou Nina Kravitz, You Go Girls. Plus chic, les classiques. En marge de la sélection officielle, le Festival de Cannes vient de révéler le programme de sa section classique consacrée aux films du patrimoine. En tout, 32 longs métrages totalement cultes. On célébrera notamment le 50e anniversaire de 2001, Odyssée de l'espace, et le centenaire d'Ingmar Bergman, les 30 ans de la projection cannoise du Grand Bleu, et des hommages à Jane Fonda, Orson Welles, John Travolta ou Alice Guy, pionnière du cinéma. Oh là là!
Là, je crois que je vais me mettre à la peinture. Ça a déclenché quelque chose d'extraordinaire. L'éclectisme du musée, là, ça permet de découvrir plein de choses.
Et figurez-vous, madame, que la Museum Week aussi, ça permet de découvrir plein de choses. Depuis hier et jusqu'à dimanche, l'événement culturel interactif déploie sa 5e édition en partenariat avec plus de 4200 institutions culturelles réparties dans 75 pays. Grâce au mot-clé Museum Week, on peut donc découvrir les parcours en ligne proposés par le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Malba de Buenos Aires ou la National Gallery de Londres. Bref, tout l'art d'un clic, c'est pratique. Mais dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Dans le cadre du projet Music Factory installé aux Galeries Lafayette de Paris, Pedro Winter a décidé de ressortir toute la discothèque perso de DJ Mehdi, producteur génial, boss du sampling, disparu en 2011, soit près de 1500 vinyles, pour se lancer dans une odyssée musicale à la croisée du hip-hop, de la house, de la techno, du funk, du jazz et du rock que le DJ maîtrisait comme jamais. Merci qui ? Merci Mehdi. Et le musicien et DJ Cerone, invité de Boomerang ce matin pour sa passionnante autobiographie, justement, Paradise, qui sort demain. Alors vous revenez sur les hauts et les bas d'une carrière internationale, on le disait, et vous dressez aussi le portrait d'une époque, celle du début et du milieu des années 70. Pourquoi est-ce que cette époque était si stimulante et novatrice du point de vue de la création artistique?
Parce qu'il y avait tout à faire, il y a nos grands frères, nos grandes sœurs ont fait 68, hein, ils ont poussé, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Mais après, fallait le faire. Enfin, suffit pas de casser les choses sans créer de la nouveauté.
Et en quoi est-ce que le disco, justement, surtout a été le produit de ça?
Bah, le disco, parce que le disco n'est pas venu comme ça, comme une mode, parce qu'il y a eu un tube et qu'on en a fait d'autres après. C'était une ambiance, c'est-à-dire déjà, on n'allait pas dans les nightclubs, où il y avait une demi-heure de musique rapide et une demi-heure de slow. ça se passait dans des loves, ça se passait dans des endroits pas prévus pour. Presque comme si on les cachait. C'est d'ailleurs pour ça que les studios 54, le 54 est venu, le 54 est arrivé, les bains en France, le Palace. C'était vraiment l'envie de faire de trouver des lieux déjà un peu
interlope.
Ouais, dans des caves ou des choses comme ça. Et donc après, la musique qu'on devait y passer, bah là aussi elle devait être un petit peu différente.
Mais qu'est-ce qu'il y avait de révolutionnaire dans cette musique? C'était quoi précisément musicalement?
Bah on le voit qu'au bout de 45 ans, attendez, déjà au bout de 45 ans on y est toujours, quoi. On y est aujourd'hui. Le marché, la pointe du marché, c'est quoi? C'est la musique de dance.
Le disco n'est pas mort.
Mais il a jamais été mort, il le sera jamais. Je crois que les Cro-Magnons ont commencé à danser déjà autour des feux et en tapant
pour
des pierres.
Pour autant, c'est devenu une forme de variété.
Ça c'était le fameux période où les Américains ont bien donné un bon titre, qui s'appelait Disco Suck. C'est-à-dire que les maisons de disques ont tous loupé le coup quand le mouvement est arrivé. Il était tellement marginal, tellement provoque. Tellement, on parlait de sexe, la pilule était arrivée, on était libérés, on avait l'excès de tout, qu'ils ont pris, et dans tous les pays du monde, ils ont pris leurs artistes locaux, les majors. En France, il y a eu Claude François, Dalida, enfin, il y en a eu plein, ils ont fait des tubes. Oui, mais ces tubes auraient été des tubes, sauf qu'ils les ont arrangés à la sauce disco.
Oui, vous avez
ça, c'est pas de la disco.
Mais vous avez raconté à un moment que la fièvre du samedi soir, ça avait été un cauchemar, en fait. Ce qui est pas très sympa pour les Bee Gees, dans votre livre, Paradise.
Parce que ça a popularisé, c'est ça qui a rendu la chose.
Il fallait pas que ce soit si populaire.
Ben nous, on aimait bien quand c'était underground. On
vous voyez
bien
comme vous êtes.
On marchait pas pour la masse. Tout le monde était sincère. Je vous répète, Love in C Minor, 16 minutes 30 de long.
Quand
c'est
même.
Pas fait pour aller. C'est pas un format radio. Donc on voulait pas aller là. On voulait rester un petit peu en marge, je crois. Et puis il faut dire qu'à cette époque, que ce soit dans la mode vestimentaire, que ce soit dans les meubles, que ce soit dans la photo, les guarols, les goudes, les gouttiers. Enfin, on était quand même une petite poignée de gens qui ont tout poussé. Quoi,
pour autant, cette étiquette disco, elle a pu vous gonfler?
Pardon?
Cette étiquette disco?
Bah, quand je venais en France, oui, parce que c'était attaché à ce que je viens de vous expliquer, à de la musique pop arrangée à la sauce disco, c'est-à-dire avec une batterie en avant et des violons. C'est pas ça la disco. La disco, c'était un esprit, c'était une atmosphère. Les DJ ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils m'ont tellement samplé pendant 40 ans, et qu'ils sont aujourd'hui en devant de la scène. Et ils me rendent d'ailleurs vraiment de manière très forte l'enthousiasme qu'ils m'ont toujours dit. C'est un peu moins
au point de faire de vous un pionnier de la French Touch, de ce qu'on appelle la French Touch aujourd'hui.
J'ai un peu ouvert les portes. Disons qu'à mon époque, moi, ma maison de disques américaine ne voulait pas dire que je sois français, et il disait que j'étais italien, ce qui est vrai, de descendance. Et ensuite, quand Supernature est arrivé, a été si important qu'ils ont dit tiens, c'est la French Sound.
Mais qu'est-ce qu'il y avait de français précisément?
Ah, je trouve que la French Touch aujourd'hui, ça existe vraiment. Parce que c'est quoi la French Touch? C'est-à-dire c'est un peu la même chose que les autres, sauf qu'on amène de la sophistication, on est un peu plus élégant, on sophistiqué dans les sons, sophistiqué dans les arrangements, sophistiqué dans les images. Regardez les meilleurs réalisateurs TV pour des pubs, par exemple, sont des Français.
Et puis il y a aussi l'amour en plus de la sophistication.
Et puis pour parler
l'amour, c'est vrai.
Puis parler de l'amour, je pense que les Français sont bien placés, oui, ils savent
l'amour.
Bien faire. L'amour. Parce qu'on est sensuel, en fait.
Ah bon, on est sensuel, mais on va le prouver, là, tiens. Ah bah, l'amour. On va reparler de tout cela, pas avant de s'être déhanché. À s'en déboîter la hanche, de s'embrasser, à s'en décrocher la mâchoire ou la langue, de s'enivrer, à en oublier le temps qui passe juste pour le plaisir, parce qu'on est comme ça. Dans Boomerang, Give Me Love, 1977. Oui. Vous êtes sur France Inter. Avec ces romans, on en parle après, vous donnez tout, tout ce que vous avez.
Trapenard.
Il n'est pas 23h30, mais 9h31.
Et je croyais qu'il était... Je croyais.
Ils sont loin, les cheveux longs, les pantalons, les chemises ouvertes jusqu'au nombril, les touffes de poils permanentées, les chaînes en or qui brillent, À le voir comme ça, avec ses cheveux blancs coupés courts, ses lunettes teintées, ses bagues et ses bracelets tout en noir, on a quand même du mal à l'imaginer, qu'il n'y ait pas si longtemps, il se trémoussait sur des rythmes endiablés au studio 54, quelque part entre le gourou New Age et le créateur de mode, c'est Ron, invité de Boomerang ce matin pour son autobiographie Paradise, qui sort demain. Et vous avez consacré votre vie, en fait, à la musique. Et chez vous, tout commence, Céron, par l'achat d'un instrument, par l'achat d'une batterie. Est-ce que vous vous souvenez du jour où votre mère vous a emmené la chercher dans un magasin du boulevard Beaumarchais?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que j'ai voulu dire, en 30 secondes, ce que j'ai voulu dire dans cette bio, c'est de raconter un petit peu tout ce qui est en backstage. Comme la question que vous m'avez posée, c'est quoi le disco? C'est quoi l'univers des disco? Comment on ressent tout ça? C'est ça que j'ai voulu écrire raconter. Et j'ai eu la chance d'avoir Bee Gordon, cette fameuse journaliste qui, pendant 15 ans, a été chercher en plus des informations sur des dates que je donne. Comment on était dans l'ambiance à l'époque, comment au studio 54, aussi bien les gens qui en faisaient la queue, dont Nile Rodgers a sorti The Freak, parce qu'il a été viré à l'entrée. Enfin, toutes ces ambiances-là qu'on a racontées de temps en temps par petites parties.
Mais c'est aussi le parcours d'un musicien.
C'est aussi le parcours d'un mec qui croyait pas vraiment, un peu d'ambitieux, un minimum de talent, et qui a su à chaque fois monter sur les barrières que la vie présentait, de monter dessus pour, comme des escabeaux, pour aller encore plus haut.
Si ça commence par une batterie, c'est
et de vivre le temps présent.
Elle ressemblait à quoi, cette batterie?
Ah bah elle a toujours été double. Elle a toujours été en tout cas mon meilleur ami, avec qui je me confiais dans les moments difficiles et les plus grandes joies, c'est avec elle que je les ai vécues sur scène.
Vous avez toujours cette batterie?
Je suis pas la même, mais j'ai toujours été toujours de musique, je vis dedans, oui.
Mais pourquoi la batterie? Qu'est-ce qui vous intéresse?
C'est un peu la branche de mon arbre. Vous savez, quand on fait le métier que je fais, surtout dans le style que je fais, on est un peu dans une bulle ou dans un arbre, et la batterie c'est une branche. C'est la branche sur laquelle je suis assis et qui m'a servi de véhicule pour faire un tas de choses, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pas fait simplement que de la musique, que de la batterie. Mais ma batterie, c'est ma branche sur laquelle je suis assis. Et croyez-moi, quand je redescends dans la vie réelle de temps en temps, pour venir vous voir, par exemple, c'est sympa, donc ce matin, c'est super. Mais souvent, j'ai très hâte de remonter dans ma branche.
Soudain, j'ai une image de vous comme Tom Sawyer, Céron, sur votre branche. Vous savez, le dessin animé Tom Sawyer, bah, il était mignon. Il était tout petit. Comment vous avez appris à en jouer de la batterie tout seul?
Alors ma mère a une idée de m'offrir cette batterie, parce que je me faisais virer des classes, que je tapais partout, j'étais extrêmement turbulent, et on sentait que j'avais besoin d'éjecter une certaine énergie. Et à force de me faire virer, elle m'a dit, écoute, j'ai pas les moyens de te mettre dans une école privée, donc ou tu fais de l'effort et je t'achète une batterie, ou alors, comment on fait, je te mets en pension. Donc j'ai préféré avoir une batterie, et à partir du moment où elle m'a dit ça, toutes les musiques que j'entendais en radio, en télé, les chanteurs et autres, j'écoutais derrière, je voulais écouter ce que faisait la batterie.
Et c'était quoi, par exemple? Quel type de chanson? Quel type de...
Ah bah moi, j'étais surtout en train d'écouter... C'était la période de Woodstock. Que ce soit Santana, que ce soit Jimi Hendrix, que ce soit Joe Cocker, que ce soit tous ces gens-là, The Cream, c'était le rock qui m'intéressait.
Et quoi. La batterie, elle est au cœur de toute la musique que vous avez toujours composée?
Mais la batterie, elle est au cœur de toutes les musiques qui existent.
Dans Supernature, par exemple.
Vous entendez ce que je vous ai dit?
Ouais, je viens d'entendre, là.
C'est le cœur, c'est ça qui donne le ton, c'est ça qui donne le ton de...
Vous savez ce qu'on fait, là? Non. Vous allez lancer le boomerang, c'est-à-dire que vous lancez votre bras, ça va faire peut-être un petit fiou-fiou, peut-être pas, et il va y avoir un petit moment de Supernature, par exemple, et vous allez nous décrire, vous allez nous expliquer, ok?
D'accord.
Je vous laisse lancer le bras?
D'accord,
allez. Ah bah non, faut d'abord le lancer à Lola, la réalisatrice de Boomerang, comme ça. Fiou-fiou. Allez, allez.
Céron,
quelle envoie. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, qu'est-ce qui se passe quand j'ai eu fait Supernature? Eh bien, sur un micro, avec mon doigt, j'ai tapé pour avoir le pied. Et on m'avait offert ce synthé ARP, un Odyssey ARP. Je savais à peine l'allumer et je savais pas couper le son. J'avais ce sequencer. C'était au tout début. Et j'ai eu des collègues, vous savez, on n'est jamais seul quand on fait les choses, comme vous avez une régie.
Lola, Valentine.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mec qui s'appelle toujours d'ailleurs Alain Vistia, qui savait très bien toucher tout ci et ça. Et sorti cet ovni, c'est un peu un ovni dans mon catalogue, Supernature. À tel point que quand je l'ai présenté à ma maison de disques Atlantique aux États-Unis, alors que Love in C Minor avait été très important, mon deuxième album aussi, ils voulaient pas le sortir. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc là, on entend la boucle, Céron.
Là, on entend la boucle. Pour aller en pousser encore plus la provoque, j'ai demandé à Lena Lovitch, qui était la fondatrice du mouvement punk, qui était carrément l'opposé du moins les paillettes, le sexe, l'alcool, la fête. Elle a dénigré tout. le punk dénigrait tout, et j'ai trouvé que c'était vachement bien de le faire ensemble. On l'a fait, ça a fait 8 millions d'albums, c'était très important.
Et ça se mesure pas seulement en chiffres, si?
Non, quand je dis oui, parce que les gens qui me connaissent bien savent que c'est pas les chiffres qui m'achètent.
C'est un des morceaux dont vous êtes le plus fier?
Non, surtout que vous posez la question à la fin de ma bio, puisqu'on vient de la finir. Je suis assez fier d'avoir réussi à vivre de ma passion sans concession. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé y arriver. Je l'ai pas vu, d'ailleurs. Je l'ai pas vu souvent quand les barrières se sont mises, quand on est passionné, quand les barrières se sont mises devant moi, je les ai pas vues. C'est en regardant derrière, en disant, j'ai passé ça. Alors, certaines fois, bien sûr, ça fait du mal. On a des fois dans la vie, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on amoindrit le mal quand on est possédé par une passion et qu'on n'a rien à prouver, c'est devant, quoi. C'est que dans du plaisir, on monte dans son arbre, quoi.
Merci infiniment, Céron, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Paradise, votre autobiographie, sort demain aux éditions EPA. Et je précise que votre premier groupe, Congas, fera bientôt son retour dans les vagues.
Oui, tout à
avec
fait.
Un nouveau single.
La boucle est bouclée.
Ready to Roar. Et une tournée est également au programme. Tout de suite, on va entendre les médias. Sonia De Villers, de retour de Papette encore une fois.
Hein. Et n'oubliez pas, le Paradise, c'est aujourd'hui.
C'est juste après ça. Erreur 404, l'impératrice sur France Inter, l'impératrice qui est un groupe fan de Cérone. Et ça tombe bien, c'est l'heure de l'instant M maintenant.
Je suis là avec ma couronne.
Avec Sonia De Villers, l'impératrice de France Inter.
J'en étais sûre, je l'attendais celle-là.
Ah bah elle est facile, mais vous me connaissez.
Salut Augustin, à demain. À demain.